Parole d'écriture, émission animée par Michel Bernard. Chers auditeurs, bonsoir. Avant de vous présenter l'émission de ce soir et nos deux invités en studio venus de Nice, vers nous, à Grasse, au studio Agora Côte d'Azur, au cœur de la ville, je veux revenir brièvement sur l'émission d'hier soir. Merci d'abord à tous ceux qui nous ont fait part de leurs réactions toujours élogieuses. Ensuite, je vous informe que cette émission, amplifiée, celle d'hier soir n'a duré que 40 minutes, et qui va durer en fait une heure, sera la première émission de la série « Femmes en humanité ». De ce fait, il y aura plus longuement les musiques choisies par Daniel Baudot-Laxine, qui ont été hier soir très courtes, un conte inédit qui sera lu par Anna, et un commentaire sur cet auteur, qui, je vous le redis, est selon moi l'auteur actuellement la plus remarquable du Pays de Grasse historique, 13 ouvrages, 30 000 exemplaires de vendus. Tout cela, vous le retrouverez le samedi 12 décembre à 19h sur le site Art, Culture, Éducation reliée, art au pluriel, culture au pluriel, éducation au singulier.com/. Enfin, une confidence pour vous, chers auditeurs. Ce Pays de Grasse historique, dit aussi l'Arcadie retrouvée, est en voie de voir reconnaître le parfum comme patrimoine immatériel mondial reconnu par l'UNESCO. Peut-être que ce Pays de Grasse historique aura un jour une Académie des Arts et des Lettres. Alors, je pense que Daniel Baudot-Laxine y aura pleinement sa place, ainsi qu'une autre personne, Christian Artaud, que nous avons reçu dans cette émission pour son très beau livre « La Côte d'Azur et les écrivains ». Ce soir, nous recevons deux auteurs qui viennent de Nice, comme je vous le disais tout à l'heure, dans ce studio, une femme et un homme. Apparemment, deux parcours différents. Cependant, nous allons le découvrir ensemble, je pense, un même cap et une même convergence. Isabelle Sezional, qui vient en octobre 2016 de publier son troisième ouvrage, « L'eau, elle a eu » et « Le feu », dernier volet d'une trilogie de la Renaissance. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir.
Maurice Winnikamen, qui publie actuellement un nouveau livre, « Daesh contre les fossoyeurs du château ». C'est, je crois, votre 12e livre, Maurice. Bonsoir, Maurice.
Oui, bonsoir.
C'est le 12e, je crois.
C'est le 12e, 13e. Voilà. Quand on est, on compte plus.
Voilà. Et en plus, vous ouvrez votre site, mais nous en parlerons dans un instant. Commençons par vous, Isabelle. Vous avez un parcours surprenant, docteur en mathématiques, et tout d'un coup, vous mettez à écrire. Parlez-nous de ce parcours.
Oui, je suis docteur en mathématiques et j'ai travaillé dans une grande entreprise, une multinationale, donc dans l'informatique. Et c'est sur le tard que je me suis mise à l'écriture. C'est par hasard, après avoir visité la maison de mon enfance, que j'ai eu un déclic. Et nuit et jour, j'ai voulu raconter mon histoire. Voilà, c'est mon premier livre.
Rappelez-nous le nom de ce premier livre.
La poupée d'Archimède, qui a été publié aux éditions Au Pays Rêvé. Voilà, en 2013. Donc ce premier volet de la trilogie d'une renaissance est un cri de douleur. C'est le partage, en fait, d'une souffrance. Donc c'est la première étape dans un processus de reconstruction possible. Voilà. Donc suite à ce premier ouvrage, je suis restée un an sans écrire. J'ai fait une thérapie. Et après cette thérapie, ou pendant cette thérapie, j'ai eu le besoin de partager à travers un roman, cette fois-ci, mon expérience, mon analyse de cette souffrance et le lien entre cette souffrance et, en fait, l'inceste. Donc, c'est mon deuxième ouvrage, L'Égide du papillon, qui a été publié aux éditions L'Harmattan en juin 2015.
Et arrive le troisième.
Voilà. Et donc, j'ai continué dans le roman après cette création de ce personnage Annabelle. Et cette Annabelle, après cette analyse, a réussi à sortir du déni, en fait, et donc à aller mieux. Et j'ai voulu faire partager mon espoir de la guérison, la reconstruction possible d'Annabelle, en faisant un roman d'amour. Donc, c'est mon troisième ouvrage. Donc, L'eau et le feu, publié en octobre aux éditions L'Harmattan aussi encore. Voilà.
D'accord. Finalement, l'écriture a joué un rôle déterminant dans ce cheminement.
L'écriture a accompagné, effectivement, a été déterminante. Oui, d'abord pour le partage, pour crier la douleur. Ça a été par l'écriture que j'ai trouvé ce moyen de m'exprimer, puisque j'étais dans le déni le plus total et donc je n'arrivais pas à trouver les mots. C'est par l'écriture que je suis arrivée à mettre les mots sur les mots. Et puis, bien sûr, la thérapie aussi. Je ne peux pas non plus ignorer que la thérapie a aidé dans ce parcours.
C'est écrit à jouer pour vous, mais joue aussi pour vos auteurs, les auteurs que vous rencontrez qui ont écrit sur ce sujet, et aussi vos lecteurs, non ?
Oui, ben c'est ça. Je veux, grâce à cette trilogie, enfin, j'espère, grâce à cette trilogie, faire partager ma force et cet espoir de reconstruction possible. L'enseignement, je peux montrer comme ça aux autres qu'il est possible de s'en sortir malgré tout.
Alors, il y a une résonance très forte chez ceux qui vous lisent. Est-ce que vous avez rencontré d'autres auteurs qui ont aussi travaillé un peu sur ce même domaine et un peu comme vous ?
Forcément, j'ai lu des ouvrages d'auteurs sur l'inceste. Oui, bien sûr, bien sûr.
Quel écho avez-vous des lecteurs que vous avez rencontrés jusqu'à ce jour ?
D'abord, ils aiment ma manière d'écrire. Ils disent que c'est facile à lire, c'est simple, c'est clair. Bon, ils sont touchés par la souffrance et l'émotion qui passe surtout dans le premier, même dans le deuxième écrit, mais aussi par cette manière que j'ai d'enlever avec force le lecteur et de l'emporter vers une possible reconstruction.
Alors ça, effectivement, Isabelle, c'est très fort dans vos trois ouvrages, et peut-être plus encore dans le premier, parce que c'est vraiment un cri, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Je pense qu'il y a deux grands types d'écrivains. Il y a les écrivains professionnels, je pense à Henri Troyat, par exemple, qui était à Speracède, et qui écrivait, et on me racontait, des amis proches me racontaient comment il écrivait, il se levait le matin, prenait son petit déjeuner, remontait écrire, il écrivait du matin jusqu'au soir. Bon, vous êtes un écrivain artisan qui écrit, mais qui écrit avec votre vie et pour la vie. Et on sent que, outre vos qualités d'écrivain que vous avez, effectivement c'est très agréable à lire, c'est passionnant, vous écrivez avec votre vie et vous écrivez avec la musicalité de votre vie pour la vie. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. C'est ainsi que vous le ressentez ?
Je pense que c'est parce que j'écris avec mon cœur, j'écris sans réfléchir, ça vient vraiment du fond de moi, et je pense que c'est pour ça, c'est cette force que j'ai en moi que j'arrive à faire passer dans mon écriture.
Est-ce que vous envisagez continuer l'écriture, ou est-ce que vous continuez pour l'instant à vous dire « j'attends encore un peu, je verrai » ?
Non, j'envisage l'écriture, mais je prends un peu de recul, parce que je voudrais voir, me sentir si je dois continuer à traiter, en fait, de l'inceste, ou changer de voie, parce que, bon, la guérison est là. Mais je me dois aussi à mes lecteurs, donc je suis en pleine réflexion par rapport à ça. Voilà.
D'accord, donc ça dépend...
Peut-être les deux, finalement. C'est ce qu'il faut que je fasse.
Et peut-être un troisième, c'est-à-dire il y aura toujours le
oui.
thème de l'inceste,
voilà.
Et la réaction des lecteurs,
oui.
puis peut-être autre chose.
Oui, autre chose, c'est ce que j'aimerais
vous
aussi.
Vous avez pris goût à l'écriture, finalement.
Oui, complètement. Ça a été magique, oui.
Ça a joué un rôle déterminant, un déclic dans votre vie.
Oui, je ne pensais pas être capable d'écrire. Je vous dis, ça a été par hasard. La nuit, j'ai écrit toutes les nuits. Et quand je lisais, j'étais surprise. Et c'est quelque chose que j'adore, en fait, oui. La musicalité des mots me plaît, oui. Elle correspond, en fait, à ce que je ressens.
Alors, comment vous expliquez que quelqu'un qui part sur les mathématiques découvre tout d'un coup le plaisir d'écrire et des mots ?
Alors les mathématiques, c'était un refuge pour moi, ça a été vraiment quelque chose que j'ai fait pour échapper à la réalité. C'était d'abord, bon, j'avais une certaine aptitude, parce qu'autrement j'aurais pas pu faire ça, effectivement, mais c'était aussi quelque chose qui me plaisait, je pouvais compter là-dessus, j'étais là, c'était la vérité pour moi. Vous savez, quand on vit dans le déni, on a besoin de se raccrocher à quelque chose, et là au moins les mathématiques, je pouvais compter dessus. Donc c'est là-dessus que j'ai construit ma vie, et j'ai pu, grâce à ça quand même, me construire, grâce aux mathématiques. Les mathématiques, c'est beau, c'est pur, et ça a quand même une certaine musicalité aussi. J'avais un blocage par rapport aux mots, parce que je n'arrivais pas à m'exprimer, en fait. C'est ça, je l'ai compris. Et c'est lorsque j'ai visité cette maison que le déclic s'est produit. Et j'ai pu utiliser les mots, en fait. Voilà. C'était juste quelque chose qui m'était interdit, les mots.
Que vous vous interdissiez ou que vous...
Non.
Qui vous est interdit ?
Qui m'était interdit.
À ce point.
Je ne pouvais pas parler. Ben, oui, bien sûr.
Et là,
bien
tout d'un coup, c'est parti.
Ben oui, ça a été plus fort que tout.
Et l'écriture
je suis passée par-dessus. Voilà.
L'écriture est devenue un cri.
Voilà, oui.
Le troisième volet qui vient de sortir, l'eau, elle a eu, encore une fois, il faut le dire, oui. Parce qu'on pourrait l'interpréter autrement, et le feu, mais il y a un jeu de mots qui est très sympathique.
Il y a plusieurs jeux de mots sur l'eau et le feu.
Mots très sympathiques. Voilà. C'est quand même incréable à lire, et puis on sent qu'il y a une paix qui a été retrouvée.
Ah oui, l'écriture n'est plus la même. Entre le premier, elle a complètement changé. Voilà. C'est terrible, hein, oui. Oui.
Alors, je dirais pas au lecteur comment se termine le livre, parce qu'il faut, j'allais dire, qu'il le découvre eux-mêmes. Mais avec la fin de ce livre, on peut imaginer plusieurs scénarios.
Il n'y a pas de suite, quand même.
Alors, peut-être qu'il y aura autre chose, non ?
Je ne sais pas, je ne sais pas.
D'accord. Alors, Isabelle, il y a une tradition dans cette émission. Ce n'est pas le questionnaire de Proust, ce n'est pas le questionnaire de Bernard Pivot. C'est un questionnaire que j'ai construit moi-même, qui comporte 12 questions, et alors je vous le soumets. Vous avez droit à tous les jokers que vous voulez.
D'accord.
Trois mots qui rendent présent votre enfance.
Trois mots qui rendent présent
votre enfant.
Mon enfance, je l'ai oubliée. Voilà. Donc ça sera le premier, c'est l'oubli.
D'accord. Trois personnes vivantes que vous admirez le plus.
Ouh là là. Je me suis pas vraiment posé ce genre de questions.
Non, je m'en doute.
Voilà. Non, je ne sais pas. Non.
Et à ce jour, qu'est-ce que vous avez le plus négligé de vous, selon vous ?
Moi ? Mes sensations ? Le ressenti ?
Trois rêves pour la suite de votre voyage terrestre que vous aimeriez réaliser ?
Aimer. Aimer.
Et aimer. Selon vous, ce que vous laisserez en friche inévitablement après votre mort ?
Ah, j'aimerais bien ne pas laisser en friche quoi que ce soit après ma mort. Alors, je ne suis pas comme ça. J'aime bien classer.
Vous avez tous les pouvoirs. Quels sont les trois actes majeurs que vous avez posés ? Vous avez tous les pouvoirs. Vous pouvez tout vous permettre. Quels sont les trois actes que vous posez ?
Arrêter les violences sur les enfants. Voilà, c'est tout.
C'est déjà énorme.
Oui.
On reviendra sur ce thème de, de la violence. Votre devise, si vous en avez une ?
Croire en soi.
Selon vous, quels sont les trois mots qui vous viennent à l'esprit pour parler de l'autre ?
Aller vers lui ? Partager, aimer.
Pour vous, quelles sont les trois valeurs fondatrices de la vie ?
Le respect, l'empathie, l'amour.
Le sens de votre vie, c'est quoi, finalement ?
Peut-être que c'était écrire sur l'inceste, le sens de ma vie.
Quelle question j'aurais dû vous poser que je vous ai pas posé.
Je suis assez secrète quand même, donc c'était très bien, vous en avez posé assez à mon avis, c'est bien.
D'accord. Finalement, ce thème de l'inceste, vous vous sentez maintenant à l'aise, vous en avez parlé, vous êtes libérée et vous êtes capable d'accompagner des personnes et de les libérer à votre tour.
Oui, c'est ce que j'espère, oui.
Qu'est-ce que vous diriez à des personnes qui, sur leur route, ont rencontré l'inceste ce soir ? Écrire ?
Parler.
Parler, échanger.
Parler, ne pas avoir honte, on n'est pas coupable. Sortir de la honte et de la culpabilité.
Maurice, tu as écouté cet échange, vous avez écouté cet échange.
Oui, j'ai écouté.
Y a-t-il des questions ?
D'ailleurs, à deux endroits. Quand elle veut ne rien laisser en friche, que tout soit réglé, ça, c'est la mathématicienne. Et puis, à un autre endroit plus délicat, l'écriture. Si on admet que la musique, c'est aussi les mathématiques, je crois que l'écriture, c'est aussi la musique. Et donc, par conséquent, c'est peut-être une réponse qu'elle n'a pas faite, mais que je lui suggère.
C'est bien, oui.
Qu'en pensez-vous,
Isabelle ? C'est très bien, très très bien, oui. Oui, j'en ai évoqué la musicalité, mais j'ai pas fait, effectivement, j'ai pas dit sur les mathématiques, puisque c'est vrai que les mathématiques, c'est de la musique aussi. Oui.
Est-ce que vous avez une question, Maurice, à lui poser, à Isabelle? Peut-être elle va vous répondre, si la question n'est pas trop dure.
Oui.
Oh, pas spécialement. Je veux dire que si, effectivement, c'est sa voix, qu'elle sorte des livres, qu'elle s'exprime, qu'elle s'explique et qu'elle n'hésite pas à agresser le monde, à le prendre par les épaules en disant, bon, qu'est-ce que tu m'as fait, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que ça ne se reproduise plus.
C'est bien.
Vous avez regardé, Isabelle, ce phénomène de l'inceste dans la société, vous avez quelques données, il y a des choses qui vous ont frappé, ou vous êtes resté à des cas par cas. C'est un phénomène de société quand même important dont on parle encore peu ou rarement.
On évolue que très peu dessus, en fait. Parce que, bon, dans mon troisième volet, je parle de la société et l'inceste dans les années 80, la pédophilie, et on s'aperçoit qu'on n'a pas vraiment progressé aujourd'hui, quand les lois tournent encore toujours autour de ça. Est-ce qu'on autorisait les relations avec des enfants? On en parle encore. C'est catastrophique. Voilà.
Vous trouvez que la situation, sur ce plan-là, n'a pas beaucoup évolué?
Pas trop, si vous regardez ce qui
se
passe.
Pas assez, en tout cas.
Pas assez.
Eh bien, merci Isabelle. Redonnez-nous vos trois livres et les éditions L'Harmattan. Alors, redonnez-nous
alors,
vos trois livres.
Alors, le premier, c'est La poupée d'Archimède, aux éditions Au Pays Rêvé. Le deuxième, c'est L'Égide du Papillon, aux éditions L'Harmattan. Et le troisième, enfin, L'Eau et le Feu, aux éditions L'Harmattan aussi.
Donc, les trois se trouvent dans toutes les bonnes librairies. Et le cas échéant, si vous ne les trouvez pas, vous avez les deux maisons d'édition.
Voilà.
L'Harmattan pour les deux derniers. Et la première.
Au Pays Rêvé.
Qui se trouve.
Qui est une maison niçoise. Voilà.
Au Pays Rêvé, qui est une maison d'édition à Nice, en l'occurrence.
Nice.
Voilà. Si les gens veulent prendre contact avec vous, Isabelle, comment peuvent-ils faire? Ils vont chercher sur Internet vos références?
Alors, je suis sur Facebook et je suis sur LinkedIn. Mais bon, je vais créer un site, un blog. Bon.
Vous allez
Oui, pour mes lecteurs quand même, je sens que je suis obligée de le faire.
Je me le dois. Après, de vous rencontrer, de discuter avec vous, éventuellement vous faire venir pour des échanges, je vais le faire dans le mois.
Voilà.
Merci beaucoup en tout cas de cet échange et entre autres sur la violence des enfants, quelque chose sur laquelle on reviendra. Violence, haine et solidarité, c'était le thème de cette émission de ce soir. On verra dans un instant, dans la deuxième partie, que Maurice pose aussi cette question de la violence sous une autre forme. On retrouve la haine et on retrouve le thème de la solidarité. Vous avez employé un mot, l'empathie, l'écoute, le partage, qui sont aussi des mots très forts. Chers auditeurs, quittez pas l'antenne, on se retrouve pour la deuxième partie après les informations. Continuons cette émission qui avait pour thème violence, haine et solidarité, et on verra tout à l'heure pourquoi ce thème a été pris. Alors après Isabelle, qui est toujours en studio avec nous et qui pourra intervenir quand elle le veut par rapport à Maurice. Maurice, 13 ouvrages, parlez-nous du dernier et de votre blog, mais avant cela, indiquez-nous un peu quel a été votre parcours, car c'est quand même un parcours tout à fait passionnant, engagé, militant. Racontez-nous un peu ce chemin que vous avez eu.
C'est un parcours un peu forcé. Il ne faut pas oublier que, à 13 ans, j'ai quitté l'école en jurant de ne plus jamais y retourner. Pourquoi? Parce que nous étions des enfants cachés dans un village de Savoie, cachés parce que juifs et pourchassés par les nazis. Pas oublier que Aloïs Brunner était même remonté de Paris pour nous chasser à Nice et en Savoie. Et il se trouve qu'à ce moment-là précis, je devais être présenté à Mgr Gerlier qui voulait me faire entrer au séminaire. J'étais un brillant, brillant catéchumène. Ce qui est étonnant, mais c'est comme ça. Seulement voilà, il fallait mon acte de baptême. on n'a jamais été capable de donner mon acte de baptême au curé, et pour cause. Je lui ai pourtant juré que j'avais été baptisé, mais que je ne me rappelais plus où. Donc, je suis parti à Lyon quelques jours. Il m'est arrivé deux, trois aventures avec, la Gestapo et avec de véritables croyants. Les deux aventures séparées, qui ont fait de moi d'ailleurs l'incroyant que je suis. Et au retour, il n'y avait plus mon copain. Pour moi, dans ma réflexion de l'époque, il avait été embarqué puisque je savais que la Gestapo était venue le chercher et que donc, il n'a plus jamais donné signe de vie. Or, on se battait tous les deux, toutes les semaines, on classait les mômes par semaine à cette époque-là. On se battait pour la place de premier ou deuxième et il a disparu, j'ai juré de ne plus rien faire en classe. Et en plus, j'ai tenu parole. Sauf que, comme je voulais rien faire, mes parents m'ont dit, tu vas aller à l'usine. Et que je suis tombé à l'usine sur un syndicaliste qui m'a dit qu'ils n'avaient pas risqué leur peau pour des petits cons comme moi. Et il m'a inscrit à l'université nouvelle. Formidable. Une université dans laquelle je pouvais apprendre les matières que je voulais, celles qui m'intéressaient. Voilà comment j'ai recommencé à travailler.
Maurice, vous venez de raconter le début de votre vie, mais au départ, vous êtes un enfant juif caché dans une famille chrétienne. C'est quand même quelque chose d'important. Précisez, parce que c'est
un... Je dirais une famille chrétienne et une famille maréchaliste.
Les deux.
Oui, parce que à l'époque, très peu de gens, en 40, très peu de gens n'étaient pas maréchalistes. Pétain représentait la victoire à Verdun. On ne savait pas que c'était un coup de pied quelque part qui était allé. Et on ne savait pas que son acte essentiel, ça avait été de faire fusiller une personne sur 10 dans l'armée française. Et souvent parmi les plus courageux. Donc, ça, on ne savait pas. Or, il se trouve que Pétain disait des enfants juifs, donnez-le aux Allemands, on sait ce qu'ils en feront. Lui, il savait. Mais de l'autre côté, il y avait Jésus qui disait qui sauve une âme, sauve l'humanité. Et moi, mes fermiers savoyards ont choisi la deuxième solution et je suis très content. Et c'est pour ça que je suis là avec vous. Voilà.
Maurice, la résistance apparaît rapidement dans votre vie, enfin, avec votre naissance pratiquement, et après le fait de ne plus aller à l'école, de rentrer à l'université nouvelle, vous posez un acte de résistance extraordinaire.
Oui, mais déjà mes parents. Ma mère était du groupe Carmagnol qui à Lyon cachait les enfants. C'est elle qui a choisi d'ailleurs la ferme où je suis allé. Et mon père était un officier français qui est devenu le responsable militaire de la résistance lyonnaise. Donc j'avais de qui tenir. Voilà.
Alors ensuite, votre parcours de vie adulte, vous vous engagez, vous êtes au Parti communiste, puis au Parti socialiste,
tout à fait,
syndicaliste, vous vous engagez dans de grands combats.
Si je peux me permettre, je dirais que j'ai jamais quitté ni le Parti communiste, ni le Parti socialiste.
Ni le syndicaliste ?
Non plus. Mais, Parti communiste, j'ai eu des responsabilités au niveau national. Et un jour, j'ai quand même posé des questions. Qu'est-ce qui se passe quand même ? Vous pourriez me dire ce qui se passe en URSS. Et là, ma trésorière de cellule est venue m'expliquer que bon, j'avais vraiment beaucoup de boulot à faire, que c'était pas la peine de me charger mon emploi du temps. Elle m'apporterait ma carte une fois par an avec tous les timbres pour que je perde pas mon temps. J'ai accepté une année et la deuxième année, j'ai dit non, je viens quand vous me convoquez à la prise de carte.
Alors je pense que à ce moment de l'édition, de l'émission, Maurice, nous allons écouter la première chanson que vous avez choisie.
D'accord.
Le chant de la résistance. Écoutez, ce chant, enfin, vous étiez ému, enfin, c'est quelque chose qui résonne encore en vous.
Oui, parce que il faut que vous compreniez quelque chose. J'ai actuellement 83 ans, donc je suis né en 1933. Donc, quand la guerre s'est déclarée, j'avais 6 ans. Quand j'ai été caché, j'en avais 8. Quand ça s'est terminé, j'en avais 13. Ceux qui en avaient 15 ont pu participer à la bataille. Ceux qui en avaient 3 n'ont pas pu. Et nous sommes, nous, une frange de frustrés. On était trop jeunes ou trop vieux. Voilà, c'est important à dire. On savait ce qui se passait autour de nous. Et on ne pouvait pas y participer. Donc voilà, c'est pour ça que mon fermier, un jour, il était facteur aussi, arrête sa moto et me dit, écoute, j'ai besoin que tu me donnes ton avis. J'ai dans ma trousse une lettre pour ma tante qui lui dit que son fils, mon cousin, est mort dans un stalag. Qu'est-ce que je fais? Et moi, le môme de 10, 11 ans, 12 peut-être, je lui dis, écoute Raymond, ta tante, elle a le temps de savoir ça. Fous-lui la paix. Et effectivement, elle l'a appris à la libération. Mais c'est pour dire le degré de maturité qui était le nôtre. C'est dingue, mais c'est comme ça.
Alors Maurice, vous avez, outre le livre, le 13e qui passe sort, vous avez décidé de rouvrir votre blog.
Oui.
Dites-nous pourquoi. Et dites-nous les références de ce blog.
Eh bien, c'est Canal Blog, ça porte un nom, c'est Déferlante, au pluriel, et Écumoire, au singulier. Voilà. Pourquoi j'ai voulu le rouvrir? Parce que le livre de témoignages que j'ai fait sur mon enfance, c'est-à-dire l'hommage que j'ai rendu à mes Savoyards, vient, je crois, à point pour combattre cette idéologie folle de haine. Je veux dire qu'il y a Daesh en ce moment, et puis il y a la haine contre les musulmans, et l'antisémitisme continue, etc., etc., etc. Les gens ne peuvent plus se sentir. Et moi, offrir à la lecture, aux gens, cet exemple de mes Savoyards qui ont choisi entre Pétain et Jésus, ça m'est agréable. Et je pense que ça peut payer. Voilà, c'est pour ça que je l'ai rouvert. Et que chaque fois, je donnerai un chapitre.
Et vous avez envie que ceux qui vont vous lire participent à ce blog par leurs commentaires, leurs contributions?
D'ailleurs, j'ai dit qu'avec leur autorisation, on publiera aussi leurs commentaires.
Voilà, ce blog est ouvert, Déferlante au pluriel et Écumoire au singulier.
Voilà.
Les gens vont le retrouver facilement sur Google et ils sont tous invités, y compris autour de vous, les jeunes et les moins jeunes, à participer à ce blog et à contribuer à l'enrichir.
Absolument.
C'est bien ça. Alors vous sortez en même temps un livre, Daesh contre les fossoyeurs du château. C'est un roman.
Oui, un roman qui commence par 3-4 phrases. Ne dites plus jamais « muet comme une tombe ». Les tombes ont des oreilles. Donc voilà, je mets les morts du château, je les réveille, et ils peuvent parler entre eux. Et comme ils sont morts, ils n'ont plus de haine. Ils n'ont plus de frontières. Ils peuvent tout dire. Des choses pour lesquelles on n'aura pas un procès. Mais ils peuvent tout dire. Les fossoyeurs sont au plus près des morts. Ils sont dans la fosse. Mais en même temps, ils représentent pour moi le bas de l'échelle sociale. Et si j'ai écrit ce bouquin, c'est pour essayer de démontrer que la lutte contre le racisme, contre tous les racismes, contre la xénophobie, etc., ne peut aboutir qu'avec le peuple. Si c'est seulement les dirigeants qui en parlent, ils parleront, ils feront des belles phrases et ça s'arrêtera là. Seul le peuple peut prendre en main cette bataille absolument indispensable pour la fraternité entre les hommes. Voilà pourquoi j'ai voulu écrire ce bouquin. Je l'ai fait sous forme humoristique. Je ne sais pas si vous avez pu vous rendre compte que je blague beaucoup. Alors j'ai osé prendre les petites blagounettes que des gens bien intentionnés m'envoyaient par mail. Et puis aussi d'autres, je veux dire, par exemple, quand j'ai fêté mes 80 ans, une amie m'a demandé si je savais ce qu'on disait à un monsieur de 80 ans. Elle a répondu, j'imagine. Elle m'a dit, oui, mais on ajoute jusqu'à 120. Est-ce que tu sais ce qu'on dit à un monsieur de 120 ans? Ah non, pas du tout. Il faudra que j'attende un moment pour savoir. Eh bien, elle m'a dit, on lui dit bon après-midi, bon anniversaire et bon après-midi. C'est tout. Je veux dire, c'est de l'humour. Je veux dire que quand la maman de l'ancien président de l'Irak l'interroge sur sa santé, il lui parle de ses hémorroïdes. Je veux dire, voilà. Mais en même temps, quand vous avez l'ancienne compagne fraternelle, je ne sais pas ce qu'il y a eu entre eux, avec Jean Ferrat, qui chante le bateau, il est joli ton bateau, veux-tu m'emmener sur ton bateau? Chaque couplet est suivi de « Nous étions 800 sur la mer et nous nous sommes noyés au large de ». Je crois que c'est tout ce qui est mauvais dans l'homme. Aujourd'hui, on laisse noyer des gens, c'est infernal. Aujourd'hui, vous avez des chefs d'État, vous avez des maires qui refusent qu'il y ait des gens qui viennent chez eux parce qu'ils n'ont plus rien, ils ont tout perdu. Ils ne se sont jamais posé la question de savoir qu'est-ce que ça serait si, effectivement, la France était sous l'eau et que l'Afrique était florissante. Qu'est-ce qui se passerait ? Eux allant taper à Tombouctou, à la porte de la mairie, et en lui disant « on veut pas de toi ici ». Voilà, je crois que c'est tout ça.
Maurice, on voit très bien que vous êtes encore très très présent et très engagé. Merci à vous deux. Au-delà de la violence, au-delà de la haine, on va finir cette émission par écouter cette fameuse chanson de Mandela. On va finir avec cette musique qui va arriver doucement dans l'émission pendant que je la termine. Merci à vous deux d'être venus de Nice pour nous parler et montrer que finalement, que vous appeliez l'amour, la solidarité, le partage, on est bien sur des valeurs qui seules peuvent réinventer, refonder et faire renaître le monde. Merci à vous deux et je vous ferai une petite confidence avant, à la fin de cette émission, alors que la musique va arriver. J'espère qu'un jour, la promenade des Anglais s'appellera promenade du monde. Et que cette promenade du monde, eh bien, il y aura des kiosques. Et il y aura un kiosque de réservé à des auteurs de la région. Et j'espère que vos livres, à vous deux, y seront pour montrer qu'au-delà de la violence, au-delà de la haine, il y a la solidarité et l'amour comme finalité. Mare Nostrum, c'est peut-être ça ce qui nous réunit encore de part et d'autre. Et comme vous le disiez, Maurice, si la France était à la place de l'Afrique et l'Afrique à la place de la France, comment on réagirait? Et qu'est-ce qui peut arriver demain? Le savons-nous? Merci, écoutons cette fameuse chanson de Mandela pour terminer. Et je vous donne rendez-vous le 23 décembre pour une très belle émission où on fera le tour du monde, écho du monde, et on parlera beaucoup des enfants.
Merci.